Cette année scolaire, deux actualités ont alimenté le débat qui lie école et laïcité. Les révélations sur le lycée Stanislas de Paris et l'interdiction du port de l'abaya à la rentrée de septembre. Les deux faits font écho à des débats qui divisent encore aujourd'hui. D'un côté, celui sur l'enseignement privé confessionnel financé par l'État, et de l'autre, le débat concernant le port des signes religieux à l'école. Ces événements manifestent aussi paradoxalement les arrangements de l'État avec la séparation stricte d'avec l'ordre religieux. Dans le premier cas, il finance un établissement qui dispense un enseignement religieux, et dans le second, le gouvernement a statué sur la valeur religieuse d'un vêtement. Ces faits témoignent alors de l'évolution du sens et des pratiques liées à la laïcité. Comment cette évolution peut-elle se comprendre à l'aune de l'histoire politique de la France? Quel rôle particulier y joue l'école? Comment comprendre la laïcité scolaire dans la confusion des polémiques? Pour le savoir, nous avons mené l'enquête.
Enquête d'école, Adeline Houtchmanger.
La laïcité de l'école précède la séparation du religieux et du politique actée par la loi de 1905. Et elle fait suite à un long processus de sécularisation. La science et la justice se détachent du pouvoir religieux depuis la Renaissance, et plusieurs lois participent à la fin de la tutelle religieuse, comme celle sur l'interdiction des carrés confessionnels dans les cimetières en 1881. En 1882, les évêques font encore partie des conseils académiques, les chefs religieux sont fonctionnaires de l'État, depuis le concordat signé par Napoléon. La loi du 28 mars marque la fin des contenus religieux dans les programmes et le remplacement des religieux par des enseignants laïcs. Il faudra pas moins de 16 lois à la Troisième République pour laïciser les programmes et plusieurs années pour exclure tous les congréganistes de l'enseignement public. La laïcité scolaire n'est alors pas une invention française. Jules Ferry demande une enquête sur les pratiques étrangères avant la rédaction de la loi. Au Canada, aux États-Unis ou en Belgique, où l'école est laïque depuis 1879. L'extrême droite et les catholiques vont d'ailleurs accuser le projet de céder à l'influence étrangère et notamment aux pensées protestantes et allemandes s'inspirant du philosophe Kant. Charles Maurras, fondateur de l'Action française, dénonce une perversion de la jeunesse par les écoles primaires et les universités et il parle, déjà, d'un esprit protestant étranger à notre race. En 1886, tous les congréganistes sont exclus des écoles, ils partent alors, pour certains, à l'étranger, soutenir le projet colonial, où ils sont encore vus comme un bras utile de l'État. La loi de 1905 garantit la liberté de conscience et de culte par deux moyens dévolus à cette fin. L'absence de reconnaissance et de financement des cultes, et la neutralité des institutions publiques et de leurs représentants. Cependant, tout le XXe siècle est ponctué de reconfigurations autour de la loi de 1905 et l'école est alors toujours au cœur des polémiques. Lors de la loi Debré en 1959 sur les contrats entre l'État et les établissements d'enseignement privé, ou comme dans l'affaire du foulard de Creil en 1989.
Pendant plusieurs semaines, la question vampirise le débat public mais aussi la sphère médiatique. Intellectuels et politiques s'affrontent sur le sujet. Face à ces désaccords, le Conseil d'État, sollicité par Lionel Jospin, prend une décision fin novembre 1989. Tant qu'elle ne constitue pas un acte de pression ou de prosélytisme, l'expression des convictions religieuses ne peut être interdite dans les établissements scolaires. 15 ans plus tard, en 2004, une loi interdira finalement les signes religieux ostensibles à l'école.
En effet, la laïcité est un concept qui divise, car il relève d'un débat sémantique et philosophique, mais aussi juridique et politique, sans que son sens ne fasse réellement consensus. La République n'est déclarée laïque qu'en 1946, et le terme laïcité n'apparaît qu'en 2004 dans le corpus législatif. Bien souvent, le sens général et abstrait du terme met d'accord, mais il divise dès qu'il faut trancher des situations concrètes, dès qu'il doit être opérant dans le réel. Ce sont les interprétations et actions qui en découlent qui révèlent les oppositions. Rares sont ceux qui remettent en cause que la laïcité est une loi de liberté de conscience et de la protection de cette liberté. Cependant, la définition même de la liberté peut donner lieu à des polémiques, quand on met en question la liberté des femmes à choisir de porter le voile ou non, par exemple.
À trop vouloir me sauver, tu finis par m'oppresser. Ouais, c'est mon choix.
Ainsi, on peut tenter de synthétiser les désaccords à partir des trois notions qui permettent de délimiter la laïcité. La séparation du religieux et du politique, la garantie de la liberté de culte et la neutralité de l'État. On a vu déjà que la séparation stricte était remise régulièrement en question, soit que l'État finance et subventionne les cultes, en Alsace-Moselle ainsi qu'à Mayotte par exemple, soit qu'il tente de les contrôler lors des différentes chartes des principes de l'islam de France. De même, la garantie de la liberté de culte peut être mise à mal lorsqu'on refuse aux élèves d'excuser leurs absences les jours de fêtes religieuses, ce qui est un droit, lorsqu'on veut interdire la prêche et la prière en public, ou que le port des signes religieux soit discriminant à l'emploi, voire interdit dans les règlements intérieurs des entreprises privées. Depuis une trentaine d'années, c'est la neutralité qui est alors au cœur des polémiques. Selon Stéphanie Hennette Vaucher, professeure de droit public, on observe une hypertrophie de la neutralité au détriment de la liberté et de la séparation.
On en arrive aujourd'hui à un discours de laïcité où elle devient l'antonyme de la liberté religieuse, elle devient le fondement des restrictions à la liberté religieuse, sous couvert de cette idée qui s'est imposée on ne sait comment dans le débat public, que la laïcité voudrait que la religion n'ait pas sa place dans l'espace public.
En un siècle, la neutralité de l'État et des institutions publiques va devenir la neutralité non seulement des agents, mais aussi des usagers. En 2004, les élèves des écoles publiques sont les premières personnes privées à qui on impose la discrétion religieuse. Depuis, on demande aussi aux parents accompagnants, aux étudiantes du Greta, et cela soulève la question de la domination pour Cécile Laborde, professeure de théorie politique.
J'essaie de voir en quoi la laïcité est une forme de non-domination, en gros qui dit que ce qui doit être laïque, ce n'est pas les individus, c'est les institutions. Donc, pour résumer, c'est un peu cette idée-là, et que forcer les individus eux-mêmes à être laïques, c'est en soi une forme de domination de l'État.
Juridiquement, les manifestations religieuses et le prosélytisme sont licites dans l'espace public et pour la société civile. En revanche, elles sont interdites à l'école depuis 1937, mais le contexte est celui de l'interdiction de la propagande et du prosélytisme politique. La venue au pouvoir du Front populaire en 1936 déchaîne l'opposition et c'est contre la propagande et les ligues d'extrême droite dans les lycées que Jean Zay, alors ministre de l'Éducation nationale, déclare l'interdiction de distribution de tracts politiques et de discours de propagande.
Les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas.
Il ajoutera en 1937
« Il va de soi que les mêmes prescriptions s'appliquent aux propagandes confessionnelles. »
Il s'agit de ne pas exposer l'école, lieu de l'instruction des savoirs, à des luttes d'opinion et de croyances, mais aussi de protéger les élèves de la pression et de la contrainte du groupe alors que leurs esprits sont encore en formation. Un autre aspect du débat est la question du statut de la laïcité. Est-ce un principe, c'est-à-dire un ensemble de règles et lois juridiques qui organisent la société et ses rapports à l'État, ou bien est-ce une valeur ? Faire de la laïcité une valeur comporte un risque, celui qu'on ne partage pas cette valeur, qu'on ne s'y reconnaisse pas, et qu'on la mette en équivalence avec d'autres valeurs. C'est le risque aussi de sacraliser un choix politique, d'en faire un indiscutable qui tranche entre les bons citoyens et les mauvais. C'est pourtant le choix des défenseurs d'une laïcité comme valeur fondamentale, amorale et areligieuse qui permettrait l'association politique. La laïcité serait alors la condition de possibilité d'une société sans fondement communautaire ni religieux. C'est ainsi que Pierre Kahn, philosophe et professeur en sciences de l'éducation, décrit la position de celles et ceux qui défendent une laïcité qu'il nomme « substantielle ». La laïcité est alors conçue non comme un moyen de garantir les libertés, mais à la fois comme l'origine et la fin d'une association politique véritablement républicaine. À l'opposé, Pierre Kahn défend une laïcité qu'il nomme « procédurale », comprise comme un cadre juridique qui garantit la liberté et l'égalité, qui sont pour lui les finalités à poursuivre, dont la laïcité n'est qu'un moyen, un instrument. Écoutons Jean-Fabien Spitz, professeur de philosophie politique, qui explique cette distinction entre valeur et principe.
C'est un principe, ça veut dire que c'est une règle qui dit que vous avez le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela. Ce sont des règles d'existence commune, des règles. Ce sont des choses objectives. Des valeurs, ce sont des choses auxquelles on adhère, auxquelles on croit. Et je pense qu'il vaudrait mieux définir la République par un ensemble de principes de coexistence commune plutôt que comme un ensemble de valeurs auxquelles il faudrait que les individus adhèrent.
Le risque est alors que la laïcité soit perçue par les élèves comme un ensemble d'obligations et d'interdictions plus que comme la garantie de leur liberté, comme une négation de leurs identités plutôt que comme la préservation de leur faculté à faire leurs propres choix pour eux-mêmes. Qu'en disent alors les enquêtes statistiques ? L'étude du CNESCO révèle que 3/4 des élèves de terminale pensent que la neutralité et l'indépendance de l'État vis-à-vis des religions favorisent la démocratie. Et l'étude menée par Charles Mercier et Philippe Portier pour l'Observatoire international du religieux en 2023 montre que les jeunes générations ont une conception généralement plus ouverte de la laïcité. Écoutons Philippe Portier à ce sujet.
Les jeunes insistent beaucoup plus sur l'idée de l'égalité, sur l'idée de la liberté, égalité et liberté pour définir la laïcité.
Il assume ainsi d'opposer les plus anciens aux jeunes générations.
D'un côté donc, une attitude qui n'est pas philo-cléricale en tant que telle, mais qui est ouverte aux authenticités individuelles. Et puis de l'autre, au contraire, une laïcité qui apparaît comme anticléricale, presque anti-religieuse, surtout lorsqu'il s'agit de viser l'islam.
Redéfinir et retracer l'histoire d'un concept aussi large, c'est contribuer à dépassionner le débat, à ouvrir un espace où la discussion est possible, ce que les élèves attendent souvent avec impatience, dans un contexte souvent tendu, où la panique peut nous faire couper court et imposer le silence face à un principe devenu dogme. C'était Enquête d'école avec Adeline Hunscheringer et Sébastien Boudin à la réalisation et au mixage. Retrouvez toutes les références sur le site de Cadécole et rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.